50% Next Gen, 50% Rétro, 100% Jeux Vidéo. C'est Génération Press Start sur M157 Radio.
Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Try Again. Moi j'aimerais dire merci à Vincent et à Clotilde pour cette première heure sur les jeux vidéo plus récents. Nous cette semaine dans Try Again, on vient vous parler d'un monument, d'une légende, d'un mythe, d'un jeu qui a fait rêver nombre de joueurs, de Shenmue. Bonsoir Nelly,
déjà.
Bonsoir Nelly, qui prend la parole la première. Je ne sais pas qui viendrait me couper en premier. Bonsoir.
Bah, c'est toujours moi.
Eric, il s'appelle Ellie.
Coucou les loulous.
Et le dernier de l'avant, on est toujours là. Hein.
Salut Martin, salut à tous.
Bien, parce que ce soir, j'ai envie d'écouter des bonnes musiques. Ce soir, on va écouter du Koshiro Yuzo.
Cool.
Ouais. Et réorchestré parfois, hein, donc c'est beau.
Tu nous diras comment.
Je ne sais plus exactement, vous l'entendrez.
Moi j'écoute tes musiques à l'avance et je sais que Jack c'est très beau, très mélancolique. Et j'ai l'impression que plus on avance dans la saison de Try Again, plus à chaque fois tu nous prends des jeux comme ça, à ambiance zen et tout.
Je me zénifie, c'est l'âge, je deviens vieille, c'est ça?
Non, je ne sais pas, mais c'est une impression.
On sent que l'arrivée de la trentaine.
Oh purée,
non,
ça y est.
Moi je pense au contraire que tu as besoin de la zénitude quand tu joues à différents jeux et ça fait du bien comme ça.
Non, mais j'ai un certain intellect à nous. Tu vois, c'est ça en fait.
T'as pas besoin d'un jeu qui pulse, je suis pas trucidé, 150
voilà, c'est ça.
Ça bouge, là, tu t'en fous, c'est zen. Donc ce soir, on va s'écouter une petite musique. On revient après, on accoute d'abord le thème principal, une thème principale, et puis on y va juste ensuite.
It's a move.
M57 Radio.
Sans plus attendre, je vous rappelle que nous sommes sur M57 Radio, si le jingle ne vous l'avait pas bien dit. Je vous rappelle aussi que actuellement, vous pouvez nous retrouver à différents endroits. Donc le Facebook de l'émission de radio, avec le Facebook de tous nos profils. Le forum avec les podcasts qu'on vous met à disposition toutes les semaines. Cette semaine d'ailleurs, c'était Indiana Jones and the Fate of Atlantis qui avait été décortiqué par Lionel. Un excellent jeu aussi, un excellent point and click. Et d'ailleurs, Lionel, je ne vais pas tarder à te passer la parole parce qu'il me semble que c'est toi aujourd'hui qui nous a préparé un joli sujet pour l'InsertCoin, si je ne m'abuse.
Ouais, c'est vrai, c'est moi, j'avais presque oublié, dis donc.
C'est bizarre, hein, il y a des soirs comme ça, tous les zen, on oublie tout, c'est des inattitudes.
Ouais, tout à fait, ouais. Non, mais c'est vrai que j'étais tranquille, là, et tout. Je m'attendais pas à ce que ce soit déjà mon tour. Donc, donc je vais vous parler, en fait, ce soir d'un concept de jeu que je qualifierais, en fait, de jeu libre. Donc, c'est vrai que dans la plupart des jeux, quand on regarde, vous êtes un peu pris par la main, le joueur est guidé, par l'histoire, par le scénario, enfin tout, tout est fait pour que le joueur évolue dans un certain sens. Je veux dire, on va prendre un Mario, bon, à part quelques exceptions où on peut shorter des mondes, on va quand même évoluer dans un certain sens. On va le jeu vous laisse pas forcément le choix de ce que vous allez faire. Vous allez des fois éventuellement avoir deux branches, partir à droite ou à gauche ou des choses comme ça, mais ça reste relativement
linéaire.
Voilà,
c'est linéaire. Ça, le mot que tu cherchais, je pense.
Ouais, exact.
Comme dans un couloir.
Donc on est guidé, et c'est vrai que c'était quand même le cas dans beaucoup de jeux, je dirais jusqu'à assez récemment encore, hein. Bon, mais ça, on va dire que pour moi le concept de jeu libre a vraiment commencé avec des jeux comme Shenmue et ce genre de choses. Il y en a eu d'autres avant, ça je ne dis pas.
Je pense qu'il y en a
eu
d'autres avant, mais c'est peut-être le premier plus connu.
C'est le premier qui a vraiment marqué les esprits. Bon, Nélie nous en parlera bien après.
Tout à fait.
Mais voilà, donc. Certains jeux d'aventure, justement, donc on fait le parti de la liberté quasi totale pour le joueur, on va dire. C'est-à-dire que on est guidé par il y a quand même un scénario, une histoire en trame. Donc vous allez suivre quand même sans forcément, mais on vous impose pas en fait de suivre ce scénario à la lettre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une aparté d'autant de temps que vous voulez, vous balader, résoudre d'autres quêtes. Dans l'ordre qui vous plaira, les résoudre ou pas d'ailleurs, choisir même éventuellement comment vous allez résoudre la quête principale. Souvent c'est le genre de jeu qui vous propose plusieurs fins en fonction de comment vous allez évoluer vous dans le jeu en lui-même. Donc ça a un côté vraiment très immersif, parce que vous êtes seul à décider en fait où vous allez. Alors après, effectivement, bon bah va y avoir comme je disais, une trame, une histoire,
un fil principal,
un fil à tenir qui va rester. Mais c'est le genre de jeu où vous pouvez jouer des heures à faire autre chose, comme dit, à vous balader. Ou souvent, il y a des petits mini-jeux ou des petites choses à part qui vont pouvoir vous occuper pendant des heures durant sans que vous ayez à vous préoccuper. Et puis, au bout de 3 heures, si vous avez envie de revenir un peu sur la quête principale, vous y revenez, vous avancez. Vous faites une action qui va faire un peu avancer l'histoire, mais puis après vous repartez à droite, à gauche, vous baladez. Généralement, c'est le genre de jeu où vous vous baladez en plus dans un univers, une ville par exemple. Ah, je vais vous citer un cas célèbre, c'est GTA.
Ouais.
Donc un des plus célèbres, qui vous place en fait dans la peau d'un gangster, et vous êtes dans une ville, et en fait les seules limites du jeu sont les frontières de la ville en fait, quoi. Donc vous avez l'environnement de la ville qui est plus ou moins grand selon les versions du jeu, plus ou moins développé aussi, mais vous vous baladez, après vous faites un peu ce que vous voulez, quoi.
C'est comme dans Shadow of the Colossus, c'est open world.
Voilà, tout à fait. C'est le concept de open world, de jeu libre, quoi.
Du free.
Voilà, du free play. Donc, par exemple, en digne successeur de GTA, on retrouve par les mêmes développeurs Red Dead Redemption, quelque chose de beaucoup plus récent qui pousse
western.
Vraiment, voilà, côté western, mais qui pousse encore plus loin, je dirais, le concept de liberté. Vous vous baladez vraiment dans un univers immense, c'est beaucoup plus grand qu'un GTA par exemple, où vous avez et vous êtes dans un monde ouvert. Et alors, un truc très important dans l'évolution des jeux libres, c'est la possibilité qu'ils ont avec les machines récentes d'éviter les temps de chargement. Parce que c'est vrai que quand vous jouez à des jeux vidéo, souvent vous passez soit d'un écran à un autre, genre par exemple un Zelda ou quelque chose comme ça, sur les Zelda en 2D où vous aviez un écran, vous passez dans l'écran d'à côté, il y a un petit temps, même si c'est très minime parce que c'est de la cartouche à l'époque, il y a une petite seconde pendant que vous passez d'un écran à l'autre. Et dans les jeux libres, une des principales évolutions, justement, c'est d'avoir réduit au minimum ces temps de chargement, quoi. En général, il y en a quand vous passez dans une maison, quand vous rentrez dans une maison, et encore, pas toujours.
Des fois, c'est un petit ralentissement, ouais. On sent qu'il se passe quelque chose,
voilà,
mais
on sent le CD qui travaille.
On commence tout de suite à jouer, quoi.
Mais tout a été fait pour qu'en fait les temps de chargement soient le plus transparent possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui joue beaucoup dans l'immersion, parce que vous n'êtes pas à vous dire, je lâche la manette 3 secondes parce qu'il y a un temps de chargement, quoi.
Ouais. Limite, tu mets la télé comme dans Resident Evil, tu ouvres une porte, ça met 3 temps à charger, alors tu mets la télé pour Regardez, ça passe plus vite, quoi.
Tu me racontes là, moi, ça me fait penser à autre chose. Quand j'étais ado, il y a un copain de moi, il m'a montré Fallout 1 ou 2 sur PC, je sais plus.
C'est ça, oui.
Et en fait, il venait de finir le jeu, puis d'un coup, il a lancé une nouvelle partie, puis il s'est dit, ah tiens, est-ce que je vais tenter, car je vais faire la quête de fin. Et sous mes yeux, il a fini le jeu en moins de 2 minutes, en passant la quête de fin, avec juste en discutant avec quelques personnages, alors qu'en fait, il a squeezé toute la trame principale, qui avant, il avait pris des dizaines d'heures de jeu. Ouais, et là, il s'est rendu compte que, ah ouais, mais on peut faire ça.
C'est ça, quoi. Mais moi, c'est pareil, plus récemment, j'ai fait Fallout 3, qui est effectivement un univers totalement libre.
Énormissime,
quoi, avec des zones vraiment très importantes. Et effectivement, bon, moi, je me suis amusé à le finir, je dirais pas à 100%, mais au moins à 95%, c'est déjà énorme. Mais j'aurais pu effectivement partir sur la trame principale. Et c'est vrai que j'aurais pu m'amuser à finir le jeu en par une heure ou deux, peut-être, à tout casser, quoi. Le temps de passer par quelques trucs obligatoires dans l'histoire, mais grosso modo, ça aurait été possible. Après, ça aurait pas forcément été évident, parce que comme c'est un système en plus de RPG, c'est encore différent, faut avoir un certain niveau quand même pour faire certaines choses. Donc, j'aurais peut-être galéré, effectivement, avec mon équipement de mouise de départ, mais j'aurais probablement pu le faire, quoi.
Ok. Bon, alors moi je vais pas t'en passer la parole à Nelly, mais avant ça, on va s'écouter la musique de Nozomi et de Ryo.
M57 Radio. M57 Radio.
Alors, je sais pas vous, mais moi, avec une musique pareille, je me sens zen. Je n'ai pas envie de dormir, mais je me sens zen. Non, pas romantique, mais zen. Détendu, calme, en paix.
Tranquille.
Donc voilà, Nelly, sur cette zen attitude, je te laisse la parole.
Avec la voix, comme ça.
Ouais, la voix, zen.
Non, allez, on se réveille un petit peu. Parce que j'ai du boulot. Pour une fois, je ne vais pas vous parler d'un jeu auquel j'ai joué autrefois, quand j'étais toute jeune, enfant ou proche de sa sortie. Pour une fois, j'ai répondu aux demandes des auditeurs qui nous ont réclamé, et en particulier conseillé par Big Mountain, donc je vous parle de Shenmue, que j'ai dû ressortir exprès pour vous, que j'ai testé en 2011, là, maintenant, exprès pour vous, que j'ai découvert. Alors ça a été un excellent conseil de la part de Big Mountain, parce que des fois on peut être rebuté quand on sort un vieux jeu auquel on n'a pas joué autrefois, parce que le graphisme n'est pas là, il y a de la lenteur, il y a ci, il y a ça. Mais là, franchement, ça a pas du tout été le cas. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai plongé dedans sans souci, pourquoi ça a été une découverte fantastique. Pour une fois, c'est nous qui avons découvert, et on reporte cette découverte à tous ceux qui ne connaissent pas le jeu. Alors donc, pour commencer, pour resituer un petit peu tout ça, Shenmue a été développé par Sega AM, édité par Sega sur Dreamcast en 1999. Il est le premier épisode d'une saga imaginée par Yu Suzuki, et ce Yu Suzuki prévoyait en fait trois épisodes, donc là, dont l'intrigue devait devenir vraiment de plus en plus complexe, réfléchie, etc. Et je dis devait puisque malheureusement le troisième épisode n'a jamais vu le jour et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Il est encore attendu par tous les fans de Shenmue. Alors avec Shenmue, on assiste à une véritable révolution à plusieurs niveaux. Donc la révolution Free dont on parlera un petit peu plus tard, mais d'autres petites nouveautés que l'on découvre tout au long du jeu. Pour résumer l'histoire, parce que la première chose d'incroyable, c'est l'histoire qui a été inventée autour du personnage que l'on va jouer. Donc pour resituer un peu tout ça, le jeu commence en novembre 1986. Donc on revient encore un petit peu en arrière par rapport à la date de sortie, dans un Japon qui est assez traditionnel, puisqu'on va être dans l'univers d'un dojo de jujitsu, je crois. Et donc on est vraiment dans un univers assez traditionnel, dans les petits villages, les petits quartiers qui sont absolument magnifiques. Et on incarne Ryo Azuki, qui est un jeune homme de 18 ans. Il est fils de Iwao Azuki, qui est donc maître dans l'art du jujitsu et qui possède un dojo. Ce Ryo est un jeune homme tout à fait charmant comme les autres. Il est lycéen et puis il entretient des sentiments pour une jeune fille fragile qui est Nozomi et qui travaille après les cours dans le magasin de fleurs de sa grand-mère. Donc on suit un petit peu de la musique, la première musique que j'ai choisie puisque c'était sur le thème de ces deux personnages. La musique très romantique, mais ce qui est fantastique, c'est que c'est toujours ils s'aiment, ils se le disent pas, on le sent, c'est dans l'atmosphère, donc ça déjà c'est beau, c'est du non-dit mais c'est beau quoi. Et donc ce Ryo, on nous dit qu'il a perdu sa maman, qu'il a été éduqué par sa nourrice qui s'appelle Inesan et qui est toujours parmi la famille, qui est incluse dans la famille. Et un jour notre cher Ryo rentre chez lui, c'est comme ça que commence l'histoire. Il retrouve Inesan complètement affolée car des hommes étranges sont dans le dojo avec son père. Donc notre personnage Ryo se précipite devant le dojo. Là on voit Fukasan, qui est un autre personnage qui pratique le jujitsu dans le dojo, qui est éjecté violemment du dojo. Donc Ryo rentre, retrouve son père au sol, qui est malmené par un homme, et cet homme est en train de menacer le père de Ryo. Donc on comprend qu'il s'appelle Landy et il semble vouloir un miroir. Alors un miroir, on se dit pourquoi un miroir? Donc on essaie de penser que sûrement le miroir doit avoir peut-être des pouvoirs, enfin je sais pas, mais en tout cas il recherche un miroir. Et il rappelle aussi au passage, donc là l'intrigue très vite, il y a une intrigue, on nous donne des indices d'une intrigue sur laquelle on va devoir enquêter. Il rappelle au passage quand même au père de Ryo que son père, que le père du méchant est mort et qu'a priori ce serait de la faute du père de Ryo. Donc non seulement il y a une intrigue par rapport à la recherche du miroir, mais il y a aussi une espèce d'intrigue sur une vengeance. Le père de Ryo a dû faire quelque chose étant plus jeune, qui le met aujourd'hui dans cette posture difficile. Donc menaçant Ryo, Landy arrive à récupérer le miroir caché par Iwao et avant de partir, ben il assène un coup mortel au père de Ryo et c'est comme ça que Ryo commence sa quête. Il veut comprendre et il veut, même avant de comprendre, il veut surtout venger son père. Donc évidemment, pour venger son père, on va devoir essayer de comprendre pourquoi il était là, ce méchant, pourquoi il veut un miroir, qu'est-ce que c'est cette histoire de meurtre, etc. Et on va devoir donc partir sur la piste de ce fameux Landy, sans trop au début savoir pourquoi, comment, etc. Donc très énigmatique dès le début. On va alors être propulsé dans un véritable film de détective, mais vraiment, parce que comme l'a dit Lionel, on est dans un monde free, donc un monde énorme dans lequel on peut vraiment aller où on veut, quand on veut. Le free entre guillemets, donc le mot anglais, c'est free pour le côté libre du monde, mais chaque lettre veut dire quelque chose. Le F veut dire full, le R réactive, heist, entertainment, ça veut dire que les yeux vont être toujours réactifs dans ce monde, on va toujours avoir des choses qui vont se passer autour de nous d'une manière très naturelle, comme si on était dans la réalité. Avec Shenmue, cette liberté va pour la première fois atteindre une dimension jamais encore atteinte dans les jeux jusqu'à présent. Tout d'abord à travers l'aspect enquête, puisqu'on va diriger Shenmue et pouvoir lui faire fouiller des lieux, récupérer des objets, lire des lettres, interroger des personnes. On choisit qui on va voir, qui on va interroger, et on peut même interroger le passant, le premier passant que l'on voit dans la rue, parce que
Oui. On peut vraiment tout faire. C'est...
Bah attends, ça ce n'est qu'un début.
Ah ouais.
Donc on peut vraiment interroger le premier passant qu'on voit, parce que le premier passant qui est dans la rue, peut-être qu'il était là quand des choses se sont passées, peut-être qu'il a vu quelque chose. Donc déjà cette liberté d'enquêter, comme si on était à la place du héros, qu'on était dans sa rue et qu'on essaye de voir où est parti le méchant, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc au début du jeu, Rio il sait rien, donc il commence par fouiller sa maison. Pour fouiller, c'est un petit peu rigide. Un petit peu bizarre. On a la touche gâchette gauche, si je ne me trompe pas, qui permet d'observer. Et quand Shenmue va voir un objet qui peut potentiellement être utile, cette observation est dirigée vers cet objet. Il y a un instant de pause. Et donc, on sait qu'on peut peut-être faire quelque chose avec l'objet. On peut le prendre, on peut le retourner pour voir s'il y a quelque chose de caché, ou tout simplement on le regarde, il sert à rien, on le repose. Mais là où c'est un peu délicat, c'est qu'au début on nous explique pas cette gâchette d'observation. Ouais. Donc au début j'étais un petit peu perturbée. Après quand on comprend le système, il y a plus de soucis. Au début ça fait bizarre.
Petit indice aussi, quand tu passes à côté d'un objet comme par exemple le téléphone, il va tourner la tête un petit peu, je crois, vers cet objet.
Mais pas toujours.
Ouais.
Certains oui. Et en plus, des fois, il tourne la tête vers un objet qui ne nous est pas utile tout de suite, parce que c'est la réalité. On est dans une réalité. Quand on croise un passant, on peut le suivre du regard. Quand on voit un objet qui peut nous être utile, on peut le regarder. Mais pas forcément à ce moment-là, cet instant-là, et pas forcément finalement pour faire quelque chose d'utile, forcément ouais. dans la suite de l'histoire.
Donc ça dépend de la passante, il ne regarde pas toutes.
Non, il ne regarde pas toutes. Donc Rio, il est un peu perdu. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il y a un grand méchant qui a attaqué son père, qui l'a tué, et qu'ils se sont carapatés dans la rue. Donc lui, le réflexe qu'il a, comme nous on pourrait l'avoir, c'est d'aller enquêter. Est-ce que vous n'avez pas vu dans la rue quelque chose de bizarre qui s'est passé, une voiture, des passants? Et là on nous parle d'une voiture noire. Tout de suite les voisines qui sont tout le temps en train de discuter sur le bord de la route devant leur maison, c'est trop marrant, on retrouve les voisines qui cancanent jour et nuit, voilà, comme dans les petits villages. Donc c'est trop marrant. Donc on va les questionner, et elles ont vu une voiture noire qui s'est enfuie. Elles nous donnent la direction, et c'est comme ça que l'enquête petit à petit va commencer et va aller de branche en branche nous apprendre des choses. Donc on va être envoyé de personne en personne qui en savent de plus en plus, et on va en apprendre de plus en plus sur ce gang, parce qu'il y en a qui vont avoir reconnu qui était dans la voiture, il y en a qui après on en apprend sur le gang, il y en a qui savent des choses, surtout les anciens de la ville qui vont savoir des choses, parce que c'est un peu un gang un peu à l'italienne, quoi, comme Al Capone, quoi. C'est un peu De génération, ce gang existe, donc les personnes âgées vont beaucoup pouvoir nous aider. Alors la petite chose embêtante, c'est que malheureusement le jeu n'est pas en français. Il est sous-titré anglais quand même. Donc si on a des bases d'anglais, on peut s'en sortir, excepté si on est comme moi de temps en temps un petit peu quiche et que on nous envoie voir des sailors, qui veut dire marin, et que je ne sais pas pourquoi dans notre tête sailor c'est un souvenir, on croit que ça veut dire tailleur. Et qu'évidemment dans la ville il y a des magasins où on fait des vêtements, et donc pendant 3 heures on tourne autour du magasin, on interroge les gens du magasin, alors que non pas du tout, sailor ça veut dire marin. Donc voilà, anecdote personnelle sur mon niveau d'anglais.
Bravo.
Donc petit à petit les infos vont se croiser et on va comprendre de mieux en mieux ce qui se passe.
Moi j'en ai aussi une petite anecdote personnelle, c'est que quand Ellie elle joue à ce jeu vidéo, elle parle à son personnage, donc elle dialogue avec lui, mais bon, je lui ai pas encore expliqué que c'est vrai que c'est un univers libre et tout, mais qu'il n'y a pas encore d'interface vocale pour pouvoir discuter avec son personnage.
C'est tellement réaliste, t'as tellement l'impression que le personnage c'est toi, même si c'est un homme, c'est Rio, c'est un jeune homme, etc. Mais t'as l'impression que c'est toi qui enquête, parce que tu peux interroger qui tu veux, où tu veux, quand tu veux. Donc du coup quand il fait une connerie ou que t'arrives pas à lui faire quelque chose et tout, tu t'en veux, tu râles, tu pestes.
Genre quand t'essayes de rentrer dans les docks
ça on en parlera plus tard.
Il a la place rigide, alors tu dis tourne.
Donc voilà, donc c'est pour ça donne envie de parler. Oh putain le vieux là, qu'est-ce que tu me radotes encore, c'est bon j'ai compris ce que tu me racontais, donne-moi des indices quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je joue. Donc à la manière d'un enquêteur, Rio va noter pour nous dans un carnet les infos qu'il collecte et les lieux, les personnes qu'il faut visiter. Donc là c'est pareil, j'ai une petite anecdote, parce que évidemment comme j'ai voulu préparer l'émission, il a fallu que j'aille très vite. Et donc, j'ai voulu un petit peu tricher. Big Mountain m'a dit, non, 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 regarde pas les solutions. Tu regardes le carnet, toutes les informations importantes, elles y sont. Et à chaque fois que t'es perdu, il va y avoir des gens en plus dans la rue, tu vas interroger, qui vont t'aider, qui vont te guider, qui vont te mener vers la piste. Donc ça, c'est énorme. Parce que même quand on est nul, on y arrive.
Ok. En attendant, on va s'écouter le thème The Morning Fogs. Donc, je ne trouve plus la traduction de fog, c'est le brouillard.
Brouillard.
Le
brouillard du matin.
M57 Radio. M57 Radio.
La Zenitude est toujours avec nous ce soir. Ah mais ce soir sur la Zen. Zen.
Oui. Et donc, il va en falloir du Zen.
Ouais, moi je suis très zen et donc je repasse la parole à Nelly parce que tu étais partie.
Pour le mot du soir bien. Qui est free. Donc le deuxième aspect, donc le premier aspect c'était dans l'enquête où on peut faire véritablement son enquête comme on l'entend. Le deuxième aspect qui rend ce côté free pour la première fois unique en son genre, c'est le temps. Le temps s'écoule, minute après minute, heure par heure. Alors c'est pas une heure est égale à une heure de la réalité quand même. N'exagérons pas. Je pourrais pas vous dire exactement le quota de transition entre l'un et l'autre, mais voilà, ça s'écoule comme dans la vraie vie. Et le quartier, la ville, va s'activer au rythme de la journée et des nuits. Ça veut dire qu'en fonction où qu'on se balade dans la rue le jour ou qu'on se balade dans la rue la nuit, il va pas se passer les mêmes choses, les personnages ne vont pas faire les mêmes actions.
Est-ce qu'il y a des prostitutes la nuit?
Mais figure-toi que devant un des pubs, le BBQ, il y a une dame qui a l'air habillée un peu pas prostitute, hein, pas vulgaire, c'est jamais vulgaire dans chez nous.
C'est des hôtesses.
D'ailleurs, il y a jamais de sang, hein, même quand le papa se fait tuer ou qu'on se bat, toujours à manu sans armes. Mm-hmm. Il y a jamais de sang, mais elle traîne là et elle nous dit va voir ailleurs, je suis occupée. Donc on comprend qu'elle est peut-être occupée justement à faire des choses.
Pourtant, elle a 18 ans, elle est mignon et pourrait être un client.
Ah,
sérieux,
il pourrait être client. Ouais. Donc chaque perso de la ville va avoir son rythme sans se préoccuper de vous tant que vous les interpellez pas. Ils ont tous leur train de vie, donc les boutiques ont leurs horaires d'ouverture. Donc si on nous envoie dans une boutique et qu'on y va le soir, elle va peut-être être fermée. On va lire sur la porte l'horaire d'ouverture, il va falloir revenir le lendemain. lendemain, tout simplement. On va, pareil, attendre certains rendez-vous. Des fois, bah, quand on va interroger une personne et qu'elle va nous donner un rendez-vous pour aller voir la personne qu'on doit interroger, bah, on se rend compte que l'heure, elle est déjà passée de quelques minutes, on l'a loupée. Donc, il faut reprendre rendez-vous pour le jour suivant. Donc, il faut connaître certaines habitudes de magasins, de boutiquiers et que l'on peut avoir à rencontrer. Rio, il a aussi son train de vie à lui, malgré le fait que ce soit vous qui le dirigiez.
Il doit dormir,
c'est pas une obligation de dormir, mais disons que quand il veut dormir, quand on veut retourner à la maison, parce que pour sauvegarder on va aller vers le lit,
ouais.
on va pouvoir sauvegarder et on va pouvoir le faire dormir, mais on ne peut pas dormir dans la journée.
Pourquoi
c'est une option qui n'est pas possible.
Pourquoi c'est avec le lit qu'on sauvegarde ? Les draps s'en souviennent ?
Peut-être.
Donc avant 20h,
avant 20h, on peut pas sauvegarder parce que c'est logique. En général, on dort pas, on va pas se coucher avant 20h. Donc avant 20h, on peut pas sauvegarder. Dans l'autre sens, alors on peut le faire veiller toute la nuit, Rio, mais Inessan, sa nourrice, qui est toujours inquiète, les soirs où on va veiller au-delà de 23h30, le lendemain quand on va se réveiller, elle va nous dire tu pourrais quand même essayer de revenir à l'heure parce que je m'inquiète.
Et si tu dors pas de la nuit, elle dit quelque chose hein,
j'ai pas essayé, je sais pas, je pense qu'elle t'engueule hein. Si tu reviens le lendemain et que t'as pas dormi et que t'es pas venu, je pense que c'est pareil, elle t'engueule, elle te dit tu dois revenir. Donc voilà, c'est assez drôle ces habitudes. Pareil la nuit, vous avez parlé tout à l'heure de la prostitute, mais la nuit on rencontre des gabourés qui sortent des bars et on peut avoir des interactions avec eux, ils peuvent être plus ou moins violents, on va avoir des scènes de QTE dont je parlais tout à l'heure avec eux, donc c'est très très drôle. Et non seulement c'est les heures qui passent, mais les saisons aussi passent. Donc en hiver, de temps en temps, il va y avoir de la neige qui va tomber. En automne, il va y avoir des jours de pluie. Et alors c'est excellent, parce que des fois, ça nous arrive de nous balader dans la rue, il fait grand soleil. Tout d'un coup, petit à petit, ça se couvre. Il va y avoir quelques gouttes de pluie. Et là, les passants, on les voit, petit à petit, ouvrir leur parapluie tout seul. Ils font leur vie, quoi. Et ça, c'est génial. Donc il y en a qui ont le parapluie, ils l'ouvrent, ils continuent à marcher. Il y en a d'autres, ils vont rentrer chez eux. C'est excellent, et je trouve.
Qu'est-ce qui se passe si tu te mets sous un parapluie d'un de ces passants ?
Bah tu peux le suivre, hein, le passant.
Oui,
tant que
rien,
tu
ne
parles pas, je lui dis rien. Hein.
Tu gueules la personne, oh, c'est normal.
Voilà. À tel point que sur shenmueangel.free.fr, qui est un site excellent, certains se sont amusés à suivre pendant toute une journée un habitant, par exemple le boutiquier de la poissonnerie par exemple, la nourrice, pour voir ce qu'elle faisait heure après heure dans sa journée, quelle était sa journée type. Donc c'est excellent, on peut suivre l'emploi du temps des personnages, quoi. J'ai adoré, j'ai kiffé. Évidemment, bon, puisqu'on doit, on est en temps réel, qu'ils ont les horaires et qu'on doit enquêter, il faut bien connaître les enseignes et le plan de la ville. Alors pour ça, il y a des plans régulièrement à la bord de l'entrée du quartier, il y a des plans. Et puis, il faut reconnaître quand même les enseignes, ça c'est pas facile, qui sont des fois en japonais. Donc par contre, quand on observe, c'est traduit en anglais. Mais c'est vrai que des fois, pour se déplacer, reconnaître certaines boutiques...
T'as pas de carte perso,
non.
Non, tu l'as pas, hein.
Non. Okay. À moins que tu puisses l'acheter à un moment donné dans le jeu, mais moi je n'en ai pas eu.
D'accord.
Pareil, chez les habitants, donc il y a l'homme bourré, il y a aussi l'habitude du casino. Donc par exemple, ils sont amusés à suivre l'habitude du casino, c'est excellent, quoi. Ce jeu, du coup, a priori n'est pas faisable à 100%. Et vous allez voir aussi pourquoi par la suite. Parce que être à 100%, ça voudrait dire voir toutes les cinématiques de jour, de nuit, en fonction des personnages qui vont agir. Et a priori, c'est pas possible. J'ai regardé quand même des solutions. Et en fonction des solutions, ils vont pas rencontrer les mêmes personnages qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Hein, les personnages avec lesquels on peut interagir sans être dans l'enquête. Et c'est très drôle de voir les différences entre solutions.
Mais ça, c'est souvent... On parlait tout à l'heure de Fallout. Souvent, on est obligé de faire des choix dans ce genre de jeu, comme dans la vraie
vie,
on va dire. Et selon qu'on va choisir, de tuer quelqu'un, de l'épargner ou de l'aider ou de pas l'aider, bah après, si cette personne est morte, il y aura plus d'interaction avec lui, alors qu'il y a peut-être des quêtes plus tard que tu peux faire avec la personne. Donc du coup, ça t'ampute certaines choses que tu pourras pas faire plus tard. Et comme tu dis, tu pourras pas faire, enfin, tu pourras faire deux parties complètement différentes.
Alors là,
complètement,
les personnages annexes en général, ils meurent pas. Donc
non, bien sûr,
voilà, c'est
encore
pas
différent.
Poussé encore à ce point-là. Mais effectivement, c'est dans cet esprit. Et donc, par conséquent, c'est ce que Lionel disait, tout ce free, que ce soit au niveau de l'enquête ou du temps, fait que Rio peut, on peut lui faire vivre sa vie comme on l'entend, parce que la ville propose tellement de choses qu'on peut mettre l'enquête de côté pendant un certain temps et faire autre chose. Donc, par exemple, tous les matins, quand on se lève et qu'on sort de la maison, enfin qu'on va vers la sortie de la maison, Inesan, qui est quand même très sympa, elle nous prépare tous les matins une petite enveloppe de 500 yens à gérer comme on l'entend. Donc on peut aller dépenser sa thune au casino, jouer au casino. On peut aller prendre des boissons dans tous les distributeurs de soda, aller faire des achats dans les magasins, jouer au gachapon, faire des concours. Alors tout ce qui est soda, gachapon et magasins, en fonction de ce qu'on achète, il va y avoir des concours qui peuvent nous faire gagner des figurines. Donc par exemple, quand on boit un soda, la canette peut être gagnante et nous faire gagner quelque chose. Le gachapon, il y a tellement de figurines que l'on peut collectionner. A priori, il y a plus de 100 figurines à collectionner quand même. Donc c'est pareil, on peut tomber deux fois sur la même, donc on peut passer du temps et de l'argent là-dessus. Et puis il y a la salle de jeu. Ellie reviendra un petit peu tout à l'heure sur le sujet. Il y a une salle de jeu dans laquelle on peut passer sa journée entière, parce qu'on nous propose de payer pour pouvoir jouer à certains jeux. On peut jouer à Space Harrier, qui est un vrai jeu de Yu Suzuki, donc c'est un shoot'em up. On peut alors, ce qui est marrant, c'est qu'il est sorti en 94, alors que je vous l'ai dit tout à l'heure, le jeu se passe en 86, donc c'est drôle quoi. On peut jouer à
dans le jeu,
c'est voilà, c'est ça, mais ils ont fait exprès, hein, c'est fait exprès. On peut jouer à Hang On, qui est un jeu de course de moto qui existe aussi. On peut jouer à un jeu de boxe qui va nous entraîner à avoir des réflexes, puisqu'il faut appuyer sur le bon bouton au bon moment,
très
aussi, rapidement. Et puis on va avoir un jeu de fléchettes, donc de précision. Et chez soi, si on fouille bien, on retrouve une console Sega. Alors je sais plus si c'est Ellie, je sais plus si tu t'en souviens, si c'est une Saturn, je crois. Hein. Il me semble qu'on trouve une console Sega, je crois que c'est une Saturn, et qu'on peut à un moment donné dans le jeu soit gagner une cartouche de jeu, soit l'acheter. Donc on peut aussi jouer chez soi. Donc c'est très chronophage ce jeu, hein, de quoi collectionner, de quoi perdre du temps. Alors attention quand même, parce que je n'ai pas testé, parce que je n'ai pas eu le temps, mais a priori, il faudrait quand même réussir à finir le jeu avant la date du 15 avril 87. Parce qu'a priori, si on finit pas le jeu avant le 15 avril 87, il y aurait une fin qui se déclencherait où malheureusement le méchant gagnerait. Donc attention quand même à pas non plus perdre trop de temps. On a quand même du temps, mais bon.
Voilà, t'en es à peu près où là,
j'en suis au CD3.
Oui, mais au niveau du temps.
Je crois qu'il doit me rester un an, je crois. Donc, ça va.
D'accord.
Et pourtant, j'ai traîné, je suis pas très très forte.
Ouais, j'ai vu que t'avais perdu un mois juste pour passer le truc des docks.
J'ai une question bête pour toi à laquelle tu ne pourras peut-être pas forcément répondre, mais sinon tu termines le jeu, est-ce que tu peux reprendre ta sauvegarde pour aller faire d'autres choses dans le jeu?
Je pense que c'est possible, puisque la sauvegarde, si on joue à Shenmue 2 après, on peut, elles sont compatibles.
Ouais.
Donc on peut repartir avec tout ce qu'on a débloqué dans Shenmue 1 pour Shenmue 2. Donc je suppose qu'on peut revenir, mais je ne l'ai pas testé.
Par rapport à cette date, tu vois, si maintenant, par exemple, tu vas d'abord faire la bonne fin et ensuite tu vas passer tout ton temps à chercher tout le bordel que tu veux.
Je préfère pas m'avancer, franchement, je ne sais
d'accord.
pas.
Bah, s'il n'y a pas de sauvegarde après, normalement, tu reprends à la sauvegarde, donc va savoir. Est-ce qu'il demande de sauvegarder après la fin du jeu?
Peut-être,
je ne sais pas.
Ouais. Juste quand tu tues boss de fin pour dire que tu tues boss de fin et qu'après, il y a d'autres choses qui se passent
dans la majorité.
Non, mais ça peut exister.
En tout cas, il y a une rétrocompatibilité entre Shenmue 1 et 2.
Bien.
Donc après, est-ce qu'on peut reprendre peut-être, je ne sais pas.
Okay.
Dernière chose pour laquelle on peut perdre du temps, et c'est un peu mon cas parce qu'il est trop mignon, il y a la petite Megumi du quartier, c'est une petite fille à couette qui a trouvé un petit bébé chat. Et donc on peut l'aider à s'en occuper, on peut aller le caresser, on peut aller le nourrir, on peut à un moment donné le nommer, on peut le voir grandir. Là, mon chat vient de sortir de son carton parce que c'est plus tout à fait un bébé, donc c'est trop marrant quoi. Et donc la vie, voilà, dans cette ville avance à tel point que, eh ben oui, il y a tellement de choses dans cette ville à faire que des fois elle est dangereuse. Et du fait aussi de son enquête, eh bien Rio va avoir droit à certaines altercations. Alors des altercations, par exemple, contre des personnages annexes, donc par exemple le clodo de tout à l'heure, mais aussi des altercations contre des bandes, des petites bandes de voyous dans le quartier, ou contre les méchants, évidemment, que l'on poursuit. Et on va devoir donc se battre. Et là, aussi, on assiste à une petite révolution, puisque il va y avoir deux manières de se battre. Première manière, ça va être le QTE dont on parle depuis le début. Donc QTE, le Ellie l'a un
quick
petit peu
time event, ouais.
Vite et couper la parole pour pas qu'il en dise trop. Donc le Quick Time Events. Donc c'est des espèces de cinématiques qui vont s'enclencher et dans lesquelles tout d'un coup il va falloir réagir très vite pour faire le bouton ou la chaîne de boutons que l'on nous exige sur l'écran. Pas facile d'enchaînement. Enfin,
c'est jamais facile, faut avoir le.
C'est jamais facile parce que c'est vrai qu'on est, c'est tellement beau et tellement qu'on est perdu dans les cinématiques et tout d'un coup, merde, je dois faire quelque chose et on ne sait plus. Il y a quand même une difficulté, j'ai l'impression, qui est dosée. Je pense que les QTE au début sont plus faciles que les QTE au fur et à mesure de l'histoire. Deuxième façon de se battre, eh ben, c'est un combat qui est basé sur le gameplay tout simplement de Virtua Fighter, dont est à la base Akira Yuki, dont est à la base le créateur de notre Shenmue. Et à la base, c'était justement un des personnages, c'était Akira Yuki qui devait être le héros de Shenmue. Donc c'est marrant. Et d'ailleurs, quand on se balade dans la chambre de notre personnage, Ryo, on voit des posters en plus de Virtua Fighter. Et là, le gameplay est vraiment poussé. Il va y avoir un moment donné dans l'aventure où on va quand même devoir combattre contre 70 ennemis. Et j'ai trouvé que si on combat bien, on peut faire 127 combos d'affilée contre ces 70 ennemis. Donc c'est quand même hallucinant. Les combats, du coup, c'est pas juste anecdotique. Ils deviennent quand même assez difficiles. Il faut apprendre à les mouvements. On peut pas pianoter dans tous les sens. Tu peux t'entraîner dans le dojo par exemple, ou dans le parc, et évidemment au fur et à mesure de l'aventure tu vas aussi apprendre des nouveaux mouvements, soit en trouvant des parchemins qui sont cachés par exemple dans le dojo de ton père, c'est ton père qui t'a laissé des parchemins pour que tu les apprennes, soit parce que tu vas rencontrer des gens qui te connaissent, qui te respectent ou qui ont respecté ton père et qui vont t'apprendre des mouvements. Pour apprendre ces mouvements, là aussi il y a une difficulté en plus, mais qui donne un côté free, c'est que les personnages évidemment ils vont pas dire bah tu appuies sur croix puis rond puis avant, ils vont te dire: pour exécuter ce mouvement, il va falloir que tu avances, que tu donnes un coup de pied et que tu recules. Et donc, c'est à toi de traduire les paroles des gens en boutons. Donc, ouais. Il faut bien connaître tes boutons, tes mouvements. Et c'est pas facile parce que, par contre, ils te donnent pas d'indication sur la vitesse d'exécution. Donc, des fois, tu te creuses la tête à réussir à le faire. Et quand tu réussis ton mouvement, puisque la manette Dreamcast, c'est une grosse manette avec un écran au milieu, la manette bip et elle te récapitule ce que tu viens de faire pour être sûr. Ah ouais, là j'ai réussi à l'exécuter. Est-ce que j'ai bien fait les mouvements? Tu regardes sur ton écran. Oui, c'est bien les mouvements que j'ai fait. Donc c'est avant, croix, machin.
L'écran, la manette, c'est Virtual Memory, non?
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Ouais. Et donc tu l'as pas forcément.
Tu l'as pas forcément, mais si tu l'as, c'est un plus.
Voilà, si tu l'as, c'est un side. Si tu l'as pas, t'es un peu handicapé.
Voilà. Donc combat pas facile.
Ce qui aurait été intelligent, c'est de mettre la manip sur l'écran quand même avant, parce que c'est vrai que, comme dit Nelly, bon, c'est le côté immersif, hein, effectivement, mais d'un autre côté, des fois, c'est compliqué de.
Bah, disons que des fois, dans Shenmue, on t'aide, et là, ils auraient peut-être pu t'aider si au bout de plusieurs fois, si t'avais pas réussi, ou si la manette avait calculé que tu faisais les bons boutons, mais pas au bon timing, tu vois, il y aurait pu avoir quelque chose en plus pour t'aider. Parce que souvent on va t'aider. Par exemple, une des autres phases que tu rencontres, c'est une phase d'infiltration. Donc c'est ce que disait Lionel dans les docs tout à l'heure quand il se foutait de ma gueule. Dans Shenmue, t'as du combat, t'as de l'enquête, t'as du free play, et puis t'as aussi un passage d'infiltration et un passage aussi de conduite de moto que je n'ai pas encore atteint. Donc ça, je pourrais pas vous en parler. Mais dans l'infiltration, donc c'est un peu à la Metal Gear, quoi. Il faut raser les murs, ne pas se faire voir par les surveillants du doc. Et donc là, quand même, ils ont eu pitié de nous parce que c'est pas facile du tout de s'infiltrer. Et au bout de plusieurs fois, il va y avoir une cinématique avec un clochard qui va vous dire: bah, moi, je connais les docs, je vais te donner des indications. Donc, première indication, il te donne un plan du doc. Deuxième indication, si au bout d'un certain temps le plan ça convient toujours pas, il va te flécher les parcours des surveillants.
Donc lui, elle est arrivée au point où le clochard vient, il la prend par la main et voilà, il l'amène directement.
Non, c'est pas vrai, ça existe pas, mais j'ai beaucoup galère, j'en suis arrivée au point où le clodone me dit: bah, reviens à 11h parce qu'à 11h il y a plus que deux surveillants, donc là c'est facile. Là tu traces et tu y arrives.
Le clodo, c'est Solid Snake.
Tu verrais la tête du clodo. Ça, c'est aussi une particularité, c'est le graphisme. Ils sont magnifiques, les personnages. Un peu rigides dans leur manière de marcher. Ça, c'est vraiment le point négatif, on va dire, du jeu.
Ils ont un balai.
Mais alors, je veux dire, les petits vieux, ils sont attendrissants. Les rides, elles sont belles. Les jeunes filles japonaises, elles sont, Elles sont vraiment mignonnes. Les petites dames qui discutent entre elles sur le trottoir, elles sont rigolotes parce qu'elles ont un physique qui a vraiment été travaillé, réfléchi. Je dis ça, mais les personnages secondaires, ils ont un caractère. Ça veut dire que dans la rue, il y a des gens qu'on connaît qui vont nous répondre. Il y a des gens qu'on connaît pas, mais qui sont très polis, qui vont quand même nous indiquer des choses. Puis il y a ceux qui sont caractériels, qui n'en ont rien à foutre de vous, qui vont aller balader. Il y a des jeunes filles très gentilles qui vous demandent des fois aussi votre aide pour les défendre, qui sont un petit peu pétapouf, qui voilà, voilà, avec leurs petites jupes comme Eliem, les petites jupes à la jappe des lycées, hein, n'est-ce pas, hein, je vois les sourires. Et elles sont très garces, donc elles vous envoient péter parce que vous êtes pas leur genre. Enfin, c'est vraiment très drôle. Donc c'est un jeu de la vie qu'il faut vraiment prendre le temps, il faut prendre le temps d'y jouer, parce que justement on peut pas enregistrer n'importe quand, on peut pas revenir n'importe quand. Donc quand on commence une partie, il faut se dire voilà, je vais avoir 2 heures quasiment devant soi si on veut vraiment en profiter sans avoir besoin de faire un aller-retour pour rien. Et c'est ça qui a été des fois critiqué par certaines personnes, parce que voilà, il faut prendre son mal en patience. Si ça ouvre à 11h, ça ouvre à 11h. Ouais, on peut pas accélérer.
Tu peux pas te dire voilà, il faut que je retourne à ce point-là, cette heure-ci,
voilà. Chose qui a été changée par contre dans le 2. Dans le 2, pour justement que tout le monde s'y retrouve, on peut soit attendre l'horaire, soit aller devant l'habitation que l'on doit visiter et accélérer le temps. Je trouve ça dommage, mais bon, peut-être que d'autres, du coup, ont découvert le jeu.
Donc, c'est là où je te pose la question par rapport à la nuit, parce que je me suis dit, ouais, sinon, tu peux faire que 4h ou 5h du matin, et qu'en même temps, il n'y a que la nuit qui peut sauvegarder, c'est un peu ballot de.
Que le soir, à partir de 20h.
Que le soir, il n'y a pas d'éléments déclencheurs qui vont arriver après 20h.
Comment ça, d'éléments? Bah, si, il peut se passer des choses la nuit, mais dans ce cas-là, il faut. Il vaut mieux avoir le temps alors de finir ces choses-là, d'avoir du temps devant soi pour jouer, finir ces choses-là, écouler la journée suivante et à ce moment-là aller enregistrer. Ouais. Parce que mine de rien, les quartiers sont très longs. Il y a quand même près de 3 ou 4 quartiers, je crois que j'avais noté les noms quelque part. Il y a le quartier de Dubutia, de Sakura, Gaoka, de Yamanose, et il y a encore le port après, plus tard. Donc il y a quand même de quoi visiter. En sachant que en sortant du quartier pour aller au port, il faut en plus prendre le bus, il y a des horaires de bus, il faut payer le bus, donc voilà. Donc prenez le temps si vous voulez jouer, ne jouez pas quand vous avez que 10 minutes devant vous. Prenez une après-midi où vous avez le temps de découvrir, de pouvoir vous faire une petite partie de jeux vidéo dans le monde de Shenmue, de mener votre enquête à bien, etc. Ouais, et là, vous allez kiffer, quoi.
C'est le genre de jeu où tu joues et tu peux te dire « je ne suis plus un life ».
Voilà,
j'ai une vraie vie,
mais pas dans la réalité tout à fait, ouais. Quand même. Donc, c'est vraiment un jeu de génie parce que Yu Suzuki, là, c'est le précurseur de beaucoup de choses. Des jeux de course de moto avec Hang On qu'on retrouve donc dans la salle d'arcade, des jeux de combat en vrai 3D avec Virtua Fighter dont on retrouve les manips à un niveau haut dans Shenmue. Il a été précurseur de jeux de course avec vue externe dans Outrun, malheureusement qu'on retrouve pas dans Shenmue. Précurseur des jeux de course en vrai 3D avec Virtua Racing, précurseur ensuite aussi des simulations d'avions 3D avec Afterburner, précurseur du free, précurseur du QTE. Enfin, franchement, c'est un magicien, ce mec. Et on peut retrouver tout ça dans une compile qui est sortie en 2001 qui s'appelle Compile Yu Suzuki Games Works. Donc ça vaut le coup, allez-y, de ce mec, c'est un génie.
D'accord. Mmh. Ok. Ça en fait des choses que tu as vues aujourd'hui. Hein, ouais. Non, hein. Bon, on va un peu se passer la zen attitude et écouter une musique. Flag of the Lions, le drapeau des lions. Alors, je sais pas si des lions dessus ou pas. Et puis, on revient après pour le reload.
L57 Radio. M57 Radio.
L'heure tourne, l'heure tourne. J'espère que vous passez une bonne soirée avec nous. Et pour cette partie reload, je vais passer la parole à Eli, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé ce soir et je sens qu'il a envie de parler.
Ah oui, j'ai plein de choses à dire. Donc je vais vous parler un petit peu des jeux dans le jeu. C'est-à-dire un petit peu comme dans Shenmue, on peut aller dans le salle d'arcade et jouer à des jeux comme Hang On ou Space Harrier par exemple. Il y a des petits jeux qui sont intégrés dedans, soit cachés, soit avec code, on peut y accéder de différentes façons. Une petite question ou deux à Nelly, donc toujours sur Shenmue. Alors pourquoi il n'y a pas eu de numéro 3? Parce que les deux premiers jeux sont vraiment excellents et...
Ouais, voilà. Malheureusement, il n'y a pas eu le numéro 3. Bah, tout simplement parce que ça a été des gros échecs. Alors, ça peut s'expliquer. Alors, d'abord parce que Shenmue 1 était le jeu le plus cher à réaliser, 70 millions de dollars pour l'époque.
Ah, quand même.
Déjà, ils prenaient un gros risque en le faisant. Mais Sega, en fait, prenait ce risque-là parce qu'ils comptaient sur deux choses. Ils comptaient premièrement sur le fait que chaque utilisateur de Dreamcast allait l'acheter. Et aussi sur le fait que le bouche à oreille sur ce qu'était Shenmue, l'argent qui avait été mis dedans, qui l'avait réalisé, ferait que ce serait un succès. Et du coup, ils n'ont pas fait énormément de pubs. Donc là, je pense que c'était un gros souci quand on veut quand même
qu'un jeu marche. Il y a beaucoup de jeux comme ça.
Même si à bouche à oreille, surtout quand on met 70 millions de dollars dedans. Bah, ah ouais. Alors, ils ont quand même retenté avec le 2 parce qu'ils se sont dit quand même, Shenmue, il est fantastique. Ouais. Ça ne peut pas rester sur un échec, mais malheureusement.
Ils avaient un moteur de jeu, ils avaient tout. Enfin, je veux dire, ils avaient un univers qui était déjà créé. Ouais. Et après, ils ont peut-être aussi recyclé certaines choses.
Vu qu'ils avaient eu une trilogie, est-ce qu'ils avaient commencé le développement du 2 avant même de lancer le développement du 1? Avant même de mettre le 1 en vente sur le marché, des fois, c'est ce qu'ils
font.
D'après ce que j'ai lu, le lancement du 2 était vraiment encore en espérant rattraper, regagner tout ça et que ça se finisse. Donc après, je ne sais pas s'ils l'ont commencé avant ou après. Certains expliquent aussi l'échec du 1 parce que justement, c'est ce qui moi m'a plu, c'est le peu de violence. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de sang, il y a du sentiment, de l'honneur, du respect envers les anciens. Donc c'est vrai qu'il y en a certains qui l'ont qualifié de plan-plan, de mou. Mais je veux dire, ça va tellement dans l'atmosphère japonisante de cette époque-là, c'est tellement beau, tellement les musiques sont là. Mais il y en a certains qui disent que malheureusement, ça aussi, ça fait que ça n'a pas vendu, parce que beaucoup de joueurs aiment quand ça bastonne avec du sang, avec des armes, avec de l'action. Et là, il faut attendre, il faut être patient, il faut avancer doucement, quoi.
Ils ont, autant que je sache, ils ont retenté en plus après de le ressortir sur Xbox.
Oui, tout à fait. Il existe sur Xbox pour ceux qui sont intéressés.
Les deux, il me semble. Le 1, je sais plus.
Voilà. Donc la critique, une des critiques qu'on voit souvent, c'est que le jeu est qualifié de contemplatif. Ouais. Et c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, ça c'est clair et net. Faut aimer, enquêter, prendre son temps.
Le principe aussi des QTE, ça peut être sympa, mais d'un autre côté. Voilà, faut appuyer un bouton vite, quoi. C'est très restrictif ce concept.
Dans le concept de free et de réalité, ben c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Le personnage, il peut très bien te parler et puis tout d'un coup péter un câble et te taper dessus. Donc il faut réagir.
Ouais, non, mais le principe est sympa, mais tout le monde n'aime pas, quoi.
Voilà,
donc, comme dit, dans le jeu vidéo, il y en a pas vraiment pour tous les goûts. Et ce jeu le prouve aussi.
Voilà.
Alors, autre question, cette fois de Alex, adapté en film.
Alors, juste pour finir avec la question d'avant, Sega quand même avoue garder l'idée d'un Shenmue 3 en tête, mais malheureusement, il faudrait trouver le financement et les gens qui sont capables de prendre ce risque. Alors oui, il y a eu un film, si on peut qualifier ça de film, si on va quand même dire un film, parce qu'il fait a priori 90 minutes, il est sorti en salle au Japon en 2001, mais en fait, c'était plus, si vous voulez, un résumé du premier, dans le but de donner envie à ceux qui n'avaient pas joué au premier de pouvoir directement acheter le 2 et pouvoir directement jouer au 2. Donc c'est pas un film comme on l'entend où on pourrait tout de suite c'est Shenmue, 1h30 d'action, d'enquête, de sentiments. Non, c'est vraiment aller à l'essentiel, reprendre les éléments essentiels du 1 pour pouvoir introduire les gens qui n'ont pas joué au 1 directement dans le Shenmue 2, quoi. Voilà.
D'accord. Alors moi, je vais passer à ma rubrique, c'est-à-dire le jeu dans le jeu. Donc, j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé quelques jeux qui sont planqués dans d'autres jeux. En commençant par exemple par Mortal Kombat 2. Si on joue en mode versus et qu'on gagne 250 rounds d'affilée avec le même personnage, on peut jouer au jeu Pong, à la vieille version à noir et blanc, là.
Faut quand même avoir du temps à perdre à faire 250 mètres.
Ouais, c'est
pour jouer à Pong.
Wow.
Ouais, exactement. Il y a d'autres versions.
Et Dans SingStar, il y a un Pong aussi. SingStar années 80. T'allais le dire ?
Ah non, non, mais c'est vrai que.
C'est vrai, il y a un Pong
mais
aussi.
Mais tu m'avais fait jouer, c'est avec
un Pong vocal.
Un Pong vocal. Si on chante aigu, enfin si on chante, on fait un cri aigu, un petit son aigu, ça monte. Et si on fait un son grave, ça descend.
Ouais, la barre descend. Oui, j'avais l'air ridicule.
C'est très drôle.
C'est très drôle. Joue, effectivement.
Sinon, dans Tekken, dans le 1 sur PlayStation, en fait, quand on lance le jeu, je crois qu'il faut faire un petit code et on peut jouer à Galaga, le shoot'em up. Donc ça, c'est fort sympathique.
Sympa, ouais.
En plus, c'était bien foutu. Hein. T'as un tir, mais dès que tu touches l'adversaire, tu peux rebalancer un deuxième tir. Donc si t'es un peu précis, tu peux tirer pas mal.
Namco, ils ont rebalancé souvent Galaga dans un jeu caché comme ça.
Ouais, c'est grand classique. Alors, il y a sur PlayStation toujours, il y a Contra qui est sorti Legacy of War. Ça, c'est un jeu que j'avais acheté à l'époque, qui était moins bien que le Super Protector de la Super Nintendo, mais qui était tout en 3D, qui était sympathique. Et à un certain niveau, on peut jouer avec des bornes d'arcade. Donc, on s'approche de la borne et on peut jouer avec un jeu avec des tanks. Relativement sympa, labyrinthe, on se tire dessus. Ah, petite anecdote.
Ça ressemble à Trax, ce que tu me dis comme petit jeu.
Ouais. Petite anecdote perso sur ce jeu, j'avais les lunettes 3D à l'époque et...
Rouge et bleu.
Ouais, parce qu'on pouvait mettre un mode 3D pour que ce soit un peu en relief, le graphisme était en trois couleurs, je sais pas, bon. Et du coup, je les ai paumés, je les retrouve plus.
Oh mon pauvre, je t'en fabriquerai, c'est quand les costumes en papier mâché, je sais faire.
J'en ai d'autres, toutes pareilles, mais pas les officiels.
Oui, les officiels.
Oh. Ouais. Mais je te marquerai Konami dessus, tu feras rien, tu verras que du feu.
C'est gentil, je fais en 3D. Alors sinon, il y a aussi Pitfall, The Mayan Adventures sur SNES, sur Mega Drive. Alors, dans ce jeu, on peut rejouer au premier Pitfall qui était sorti en 82 sur Atari 2600. C'est dans un passage secret, je crois.
Il y a un petit code à faire, sinon on s'y peut y arriver. Hein.
Mm-hmm. Et dans Days of the Tentacle, le point and click excellent sur
PC. Très souvent, on en parle. Hein.
Ouais, on en a déjà parlé plusieurs
fois. Référence. Hein.
Et là, on peut jouer à Manic Mansion, qui est un peu son prédécesseur. Quoi.
C'est son ancêtre.
Voilà. Et bon, dans pas mal de petits jeux, on retrouve des plus petits jeux à l'intérieur, comme dans les Goemon que Martin connaît bien.
Ben ouais, dans Goemon 1, il me semble là qu'on peut jouer à Zexex. Dans Goemon 2, il me semble qu'on peut jouer à une parodie Gradu. Non, pas à Gradu, c'est un autre jeu, c'est un autre jeu de Konami, je sais plus lequel. Et puis les Goemon ont toujours des jeux cachés comme ça.
Ouais, pareil dans Final Fantasy VII, il y a aussi une salle d'arcade d'ailleurs où on peut faire plein de jeux, du snowboard, une sorte de Tamagotchi, du bras de fer où il fait bourriner le bouton là. C'était sympa.
Ouais.
Il y avait un jeu de moto, un jeu de combat. Ouais.
Et t'as aussi, donc, je sais pas si t'allais en parler, mais Donkey Kong 64 aussi où t'as plein de petits mini-jeux.
Il y en a deux qui sont anciens dans Donkey Kong 64.
T'en as que deux, t'as le Donkey Kong premier du nom
sur arcade
et t'avais
pour débloquer la pièce Nintendo et après tu as encore le jetpack qui était sorti sur je sais plus quoi.
Oui, mais attention, est-ce qu'on parle de mini-jeux en plus ou est-ce qu'on parle de jeux dans le jeu?
C'est des jeux
d'origine.
Ils ont pris les jeux d'origine et tu dois le terminer pour gagner un objet.
D'accord.
Et si tu gagnes pas, si tu finis pas ces jeux dans le jeu, tu gagnes pas les objets pour te terminer le jeu à 100%.
Ah ouais, d'accord.
T'es obligé de les faire. Et donc dans le jetpack, il faut que tu fasses un score, je sais plus, 75 000, 200 000, un truc comme ça, et dans des cas, pas les terminer, t'avais 4 niveaux à finir.
Moi, c'est marrant tout ça parce qu'en fait, c'est un jeu dans le jeu, donc c'est une réalité virtuelle dans une réalité virtuelle. C'est un petit peu comme dans Matrix, si on veut.
Ah,
wow.
Ah, surtout quand tu vois que, en fait, par exemple, dans Donkey Kong, c'est encore pire parce que c'est Donkey Kong qui joue au propre jeu Donkey Kong. En fait. Ça, c'est encore plus drôle.
Il incarne Mario. Il incarne Mario qui
affronte Donkey Kong.
C'est totalement délirant. Ouais, sinon dans Shadowrun aussi on peut entrer dans la matrice et alors petit personnage vu de haut et on doit désamorcer les ordinateurs.
C'est pas un jeu dans le jeu, c'est une phase de jeu interne.
Si on veut.
Ah non, c'est une phase de jeu interne. Un jeu dans le jeu, je sais pas, tu m'aurais sorti encore le faux Galaga qui en a Mortal Kombat 3 ou Ultimate Mortal Kombat 3, là je te l'ai dit oui. Mais ça c'est une phase de jeu.
Certes. Dans les réalités parallèles, c'est un peu comme dans Tron ou dans le Cobaye. Je sais pas, t'as fait le Cobaye ceci
Ouais, le Cobaye...
C'est pas vraiment un jeu dans le jeu, mais...
Alors, le Cobaye, c'est un jeu hyper hybride, pour ceux qui connaissent. Bon, alors, il y a eu le film qui est sorti, il y a eu un deuxième film, et le premier film a été porté en jeu vidéo, et c'est un jeu vidéo où il n'y a rien de classique. Tu commences avec une petite phase, une plateforme de côté. Après, d'un coup, tu vas prendre un ordinateur, tu vas avoir des sortes de logiques de petits puzzles à faire comme dans un processeur Layton. Mm-hmm. D'un coup, tu auras une sorte de phase en mode 7 3D où tu cours à 300 à l'heure. Après, tu as une phase en mode de shoot, une phase en mode de bagnole. C'est tout et n'importe quoi.
Je crois que dans les magazines, ils avaient bien apprécié à l'époque. Moi, j'ai rejoué
plus récemment. Il est hyper dur. Hein. J'ai fini, mais il est costaud. Hein.
Je sais le oula, oh, c'est pas si. Mais en plus, dans la phase 3D, je crois qu'il avance sans s'arrêter, donc ouais, on prend les murs.
Il avance sans s'arrêter. Il faut tous ces jeux, si vraiment tu veux voir tous les phases en avec les petits puzzles logiques, tu les as pas immédiatement. Et t'as qu'un seul essai pour les réussir. Mm-hmm. Pas recommencer après. Et parce que si tu les gagnes, ça fait des vies en plus des bonus. Voilà, le jeu est vraiment super, super hardcore.
Dans No More Heroes aussi, qui a d'emblée un petit côté rétro avoué, on peut aussi rejouer à des vieux jeux rétro, des shoots, hein, shoot them up, je crois.
Ouais, il y a quelques
petits. Avec des petits vaisseaux. Ouais, ouais. Donc c'est très drôle.
Dans Tintin au Tibet, il y a un mini jeu caché avec pour pouvoir la Space Invaders pour shooter des téléprogrammeurs. Je ne sais pas comment y arriver sans tricher, mais avec un code de triche, j'ai trouvé.
Il y a nos auditeurs qui nous a dit aussi que dans Metal Gear Solid 4, on peut refaire le début de Metal Gear Solid 1, apparemment, dans l'histoire.
Ok. Bah,
tu peux dire notre auditeur FF1.
Ah, notre administrateur, magnifique.
Si tu nous écoutes.
Bon, en tout cas, il ne me reste pas beaucoup de temps pour vous dire que malheureusement, ils sont tous à sa fin. Qu'on va devoir vous laisser.
Le temps passe comme dans Shenmue.
Et voilà, le temps continue, c'est la vraie vie. Que la semaine prochaine, on reviendra pour une émission absolument exceptionnelle sur un jeu de légende. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles aussi, je vous dis The Legend of Zelda Ocarina of Time sur N64. Et ça va dépoter.
C'est clair.
En attendant, on va vous laisser avec Skull and Rock sur M57. On revient donc la semaine prochaine dans Génération Prestart pour Try Again. D'ici là, rendez-vous sur le forum et un peu partout ailleurs. D'ici là, jouez bien. Ciao, ciao. Bye bye à tous.
Salut à tous.
M57 Radio.
Yeah.
M57 Radio.
Génération Prestart. Game over.